BW. Vue d'Allemagne.
La saison du carnaval est lancée dans l'ouest de l'Allemagne. Début ce 11 novembre de plusieurs mois de festivités à Cologne, Düsseldorf ou encore Mayence. Avec le point d'orgue attendu 40 jours avant Pâques, le Rosenmontag, jour des grands défilés, ce sera le 3 mars l'année prochaine. Mais avant, les carnavaliers et autres millions de citoyens et citoyennes allemands diront aux urnes, sujet plus sérieux, l'Allemagne va connaître des élections législatives anticipées. Elles auront lieu le 23 février prochain. On revient sur ce sujet dans un instant. Et puis en seconde partie, le grand reportage de la semaine nous emmène sur l'île de Pâques, au large de l'Amérique latine, dans l'océan Pacifique. L'île, célèbre pour ses statues Moai, se bat pour conserver sa culture. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, soyez bienvenus. C'était un nouveau petit coup de tonnerre dans les rédactions allemandes de ce mardi 12 novembre au matin, y compris à la Deutsche Welle. Peu après 10h, ce qu'on appelle une alerte dans le jargon journalistique s'affiche sur nos écrans. Une date, celle des élections allemandes, élections fédérales, législatives anticipées après les classements de la coalition gouvernementale au pouvoir. Le scrutin se tiendra donc le 23 février prochain. Les partis se sont mis d'accord sur la date. Plus de 60 millions d'Allemands seront donc appelés aux urnes. Pourquoi, comment et comment va fonctionner l'Allemagne avec une coalition éclatée jusque-là? On rembobine pour mieux comprendre. Retour une semaine en arrière, mercredi 6 novembre au soir. Après des mois de querelles entre les trois partis qui forment la coalition au pouvoir à Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz prend la parole à 21h passées lors d'une conférence de presse annoncée à la hâte. Il vient de limoger son ministre des Finances du Parti libéral et explique que ce ministre a trahi sa confiance.
Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Il n'y a plus de confiance, il n'est pas possible de travailler sérieusement au gouvernement de cette manière, dit le chancelier. Son ton est très dur, inhabituel pour lui. Il annonce qu'il posera alors ce qu'on appelle la question de confiance au Bundestag, aux députés allemands, en janvier. Confiance qu'il n'obtiendra pas, c'est connu d'avance, car son parti social-démocrate et celui des Verts, encore au gouvernement, n'ont plus la majorité. Dans ce cas-là, le président allemand devra alors dissoudre le Parlement et convoquer des élections sous 60 jours.
DW.
Sauf que très vite, le soir même, la date annoncée du 15 janvier ne plaît pas. La droite conservatrice notamment réclame des élections plus tôt. Des élus de différents partis aussi. Le président allemand appelle la classe politique à la responsabilité.
Viele Menschen in unserem Land blicken mit Sorge.
Beaucoup de gens dans notre pays regardent avec inquiétude une situation politique incertaine dans notre propre pays, en Europe, dans le monde, y compris après les élections aux États-Unis.
Depuis une semaine, des discussions ont lieu publiquement, mais aussi dans des salles de réunion entre responsables de partis. Et c'est ainsi donc qu'on est arrivé finalement à cette date du 23 février prochain pour le scrutin anticipé. La question de confiance sera posée aux députés le 16 décembre et ensuite, comme tous les partis sont d'accord, le président allemand devrait convoquer des élections pour le 23 février.
DW.
Reste une question centrale, comment peut fonctionner l'Allemagne jusque-là? Ce n'est pas simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Côté ministre d'abord, celui des Finances limogé a été remplacé par un proche du chancelier. Deux autres ministres libéraux ont aussi quitté le gouvernement dans la foulée et ce sont d'autres ministres qui ont repris leurs fonctions en plus de celles qu'ils avaient déjà. Mais où c'est le plus compliqué? C'est au Parlement car il reste donc deux partis dans la coalition au pouvoir à Berlin, le parti écologiste et les sociaux-démocrates. Sauf qu'on le disait, ils n'ont pas la majorité au Bundestag. Pour de nouvelles lois, il leur faudra donc des voix en plus, soit celle des libéraux, soit celle de la droite conservatrice. Cela pourrait marcher pour certains textes, mais certains textes seulement. Et cela ne fonctionnera certainement pas pour le budget de l'État allemand 2025. La construction de celui-ci était une des causes principales des tensions entre les trois partis de la coalition. Les désaccords persistent aujourd'hui. Il faudra donc attendre les nouvelles élections l'an prochain et la formation d'un nouveau gouvernement pour qu'un budget 2025 définitif soit construit et voté. Ce pourrait être en milieu d'année prochaine seulement. En attendant, ce qu'on appelle une vorläufige Haushaltsführung, un budget provisoire, devrait servir de garantie. C'est prévu par la Grundgesetz, la constitution allemande. L'État pourrait donc dépenser de l'argent pour le fonctionnement des institutions, le paiement des fonctionnaires. Tout ce qui était déjà prévu peut aussi se poursuivre. On n'arrêtera pas des travaux sur des routes, par exemple, s'ils sont commencés. En revanche, cela pourrait poser problème pour d'autres projets que le gouvernement en prévoyait mais qui n'ont pas commencé. Des projets de transformation numérique dans les écoles ou des projets de rénovation et d'extension du réseau ferroviaire, notamment. Alors pour éviter un blocage complet, le ministère des Finances pourrait autoriser chaque ministère à utiliser chaque mois un pourcentage de crédit, et là ça devient très technique, avant même que le budget définitif soit adopté. Des dépenses supplémentaires pour la préservation de l'intérêt général, explique le porte-parole du gouvernement en Allemagne. Cela se fait déjà souvent en début d'année, c'est commun. Reste à voir dans les faits comment cela peut marcher désormais sur une longue période, sur plusieurs mois, jusqu'à ce que le budget 2025 soit voté définitivement. La crise politique est donc loin d'être terminée en Allemagne. Reste au moins, d'ici là, aux Allemands et Allemandes, du moins dans l'Ouest, le carnaval pour ne pas céder à la déprime face aux problèmes politiques.
Vous écoutez la DW.
Vue d'Allemagne, seconde partie avec le combat d'une partie des 8000 habitants de l'île de Pâques dans l'océan Pacifique à 3000 km à l'ouest du Chili. Cette île, vous en connaissez peut-être des photos, c'est celle où il y a les Mauai, ces grandes statues de pierre au visage allongé représentant les ancêtres des habitants actuels. Elles attirent des millions de touristes chaque année. Les habitants se battent aujourd'hui là-bas pour sauvegarder leur culture face à la mondialisation, leur langue, mais également leur chant, leur danse et une certaine vision du monde aussi. Sur place, c'est un reportage de Naïla de Rouen.
Ce jour-là, au lycée Hunga Ote Mana, c'est jour de spectacle. Un petit groupe d'étudiants danse tandis que d'autres jouent de la musique accompagnés par leurs professeurs. C'est pour souhaiter la bienvenue à des jeunes du Chili continental en visite sur l'île.
J'adore danser depuis toujours. Ça me fait sentir connectée à ma culture.
Miti, 15 ans, danseuse, est élève dans ce lycée qui enseigne en langue Rapa Nui et propose des cours de chant, de danse ou encore de musique.
Depuis que je suis dans ce lycée, ça me plaît beaucoup, car tout est très lié à la culture. Et moi, j'adore représenter ma culture.
Le père de Miti vient du continent, sa mère est native de l'île. Chez eux, ils parlent en espagnol, mais aussi en Rapa Nui.
Ma famille considère que c'est quelque chose de très important, qui ne doit pas se perdre. Et moi, j'essaie d'enseigner cette langue aux gens et de leur dire que c'est important.
Car la langue Rapa Nui a tendance à se parler de moins en moins, surtout chez les jeunes, comme l'explique son professeur de musique, Hugo Teave.
C'est à cause de la technologie, le téléphone portable, l'ordinateur. Ils transmettent d'autres cultures, d'autres musiques. Les jeunes commencent alors à écouter d'autres chansons. Je ne dis pas que c'est mal, mais s'ils commencent à préférer d'autres styles musicaux ou d'autres choses qui viennent d'ailleurs, alors c'est à ce moment-là qu'on perd la culture.
Il y a aussi le cas de certaines familles Rapa Nui où la transmission de la culture et de la langue ne s'est pas faite automatiquement.
Dans les années 80-90, l'idée, c'était de nous faire quitter l'île.
Nancy Rivera, la quarantaine, raconte que ses parents l'ont envoyée sur le Chili continental à l'âge de 14 ans.
C'était ça leur vision, que l'on parle bien espagnol. Car là-bas, là où ils nous envoyaient à l'école, les gens ne parlaient pas Rapa Nui. Donc c'était à nous d'apprendre l'espagnol pour ensuite étudier et obtenir un diplôme.
Aujourd'hui, Nancy comprend la langue Rapa Nui, mais elle ne la maîtrise pas parfaitement. Elle préfère alors se taire parfois.
J'essaie de faire de mon mieux, mais si je ne parle pas correctement, alors je préfère ne pas parler du tout. Si c'est pour faire du rapagnol, non merci. Je respecte trop la langue pour ça. Mais ce que je sais, j'essaie de le transmettre à mes enfants, car c'est important qu'ils sachent d'où ils viennent et à quoi ils appartiennent.
Je suis Victoria Tepanopate.
Victoria Tepanopate est en charge des enseignements ancestraux au sein de la Fondation Toki. À l'origine, une école de musique classique, l'endroit s'est diversifié et enseigne désormais gratuitement aux 80 jeunes de la Fondation à danser, à fabriquer des costumes, mais surtout à chanter en Rapa Nui.
Aujourd'hui, il y a un très faible pourcentage de gens qui parlent complètement Rapa Nui. À mon époque, on nous interdisait de le parler.
Alors, pour revitaliser la langue, rien de mieux que de la chanter selon Victoria, et c'est plus ludique pour les enfants.
Si on perd notre langue native, alors on perd notre identité et on se transforme en un simple individu de plus sur Terre. Les peuples se maintiennent à travers leurs traditions, leurs langues, leurs coutumes et leur vision du monde.
À Rapa Nui, la religion catholique s'est imposée aux habitants au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, elle se mélange avec la culture de l'île, comme ce jour de l'Assomption où une distribution de nourriture a lieu pour toute la communauté, alors même qu'il s'agit d'une pratique très ancienne à Rapa Nui.
Chaque mois, à l'occasion d'une fête catholique, on organise une distribution de nourriture. C'est une manière de rassembler tout le monde.
Lin est une figure emblématique de l'île. C'est lui qui a créé, il y a 28 ans, le premier spectacle de danse à Rapa Nui, qui existe toujours. Un moyen pour transmettre la culture, explique-t-il.
On cherche toujours des moyens pour que la culture ne se perde pas. À travers l'éducation, à travers des groupes de danse et grâce au spectacle que j'ai lancé aujourd'hui, il y en a 6 de plus. Chaque groupe de danse enseigne aux jeunes danseurs et aux musiciens non seulement la danse et la musique, mais la culture en général.
Et c'est le cas du groupe de danse Mana Maohi, composé de jeunes et lancé en 2011 par Hotu Iti Araki.
Il y a tant de choses qui sont en train de se perdre. Alors nous, les jeunes, on s'en saisit pour protéger la culture. Et au-delà d'apprendre une simple danse, on apprend à chanter, on apprend les histoires et l'interprétation des chants. De cette manière, on se connecte à la cosmovision, à la façon de penser Rapa Nui et aux récits ancestraux. Petit à petit, on consolide ainsi notre identité.
Naïla de Rouané, à l'île de Pâques, pour la Deutsche Welle.
Naïla, qu'on remercie. Et comme il s'agit de mon dernier passage à ce micro de Vue d'Allemagne, avant de passer la main à d'autres collègues de la DW bientôt, j'en profite à cette place pour remercier aussi chaleureusement tous les correspondants de Vue d'Allemagne avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis 6 ans malgré des conditions de travail pas toujours simples. Merci aussi à tous nos interlocuteurs de tous horizons dans cette émission qui sont succédés au micro au fil des ans. À mon binôme, évidemment, à Vue d'Allemagne, Anne Letouzet. Aux collègues de la rédaction pour leurs idées, leurs voix et leur relecture attentive toutes ces années. Et enfin, merci aux collègues à la technique Jan Winkelmann aujourd'hui, Simon Berkan, Jan Lukavald, Jürgen Kuhn, Thomas Schmidt, Gerd Georgi, Michael Springer et bien d'autres encore. Je vous remercie aussi pour toute votre écoute au fil de ces années. Et comme disent les Allemands, alles Gute, prenez soin de vous et restez à l'écoute. Dankeschön. Auf Wiedersehen.